Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, au sommaire de cette émission, un petit tour en bateau, me semble-t-il, et puis nous retrouverons Yann, notre chroniqueur du Sud-Ouest, qui a été absent quelques semaines de nos ondes, mais que nous allons retrouver avec plaisir. Et puis, on recevra un auteur pour un premier roman, et je vous dirai le nom de cet auteur qu'en deuxième partie. Nars, c'est encore la surprise. Donc Jacques, tu nous mènes en bateau, si je peux
dire. C'est ça, en fait, pour commencer cette émission... Je vais vous mener en bateau, donc en fait je vais vous amener, c'est mieux que vous mener en bateau, je vais vous amener en croisière à bord de l'Excelsior. Alors évidemment, ça sera pas du tout façon La Croisière s'amuse, pour les plus anciens d'entre nous, la fameuse série états-unienne des années 80. On en est très loin. Le bateau, il appartient à LOK, L-O-K, c'est une compagnie informatique qui gère la sécurité et le stockage de données de quasiment tout le monde et de quasiment toutes les sociétés. Lesquelles données sont stockées à bord de l'Excelsior, le bateau en question, et donc en fait hors de la juridiction de n'importe quel pays. C'est l'avantage. Puisque le navire, lui, va d'escale en escale, et donc il n'a pas de port d'attache. Le seul maître à bord, après le commandant, c'est Duardo. Duardo, lui, c'est le fondateur de cette société LOK. LOK, évidemment, donc pour protection de données, LOK, LOK. Je suppose que c'est ça. Et il organise, ce Duardo, chaque année, une croisière spéciale où 12 projets informatiques high-tech sont en compétition. Des applis téléphones, des programmes innovants ou prétendus tels. Et cette année, enfin cette fois-ci au moment où le roman va commencer, c'est le 10e trophée. Et c'est là qu'on va retrouver les fondateurs de La Note. Alors La Note, on les avait découverts dans le précédent roman de Julien Capron. D'ailleurs, j'ai encore pas dit quel était l'auteur. Donc l'auteur, c'est Julien Capron. Ce roman, lui, s'appelle Feu de détresse. Le précédent s'appelait Mise à jour. Et on découvrait les trois fondateurs de La Note. Donc Robin Bratt, son frère, et la très séduisante hackeuse Sixt.
On a encore oublié de dire aussi l'éditeur.
L'éditeur, c'est le seuil dans la collection Cadre Noir.
Voilà, c'est bien comme ça.
Et donc, justement, c'est cette mise à jour qu'on avait découvert dans le précédent roman que les trois présentent au concours.
Alors, je me permets encore de t'interrompre.
Bien sûr.
Bien évidemment, on peut découvrir ce livre-là.
C'est exactement ce que j'allais dire. Pardon. Je vous rassure, si vous n'avez pas lu le précédent roman, on peut tout à fait très bien comprendre celui-là. Sans avoir lu le premier. Ceci dit, on peut le lire même après, éventuellement, mais c'est le premier très intéressant aussi. Car en fait, dès le deuxième chapitre, l'auteur fait un subtil résumé pour mettre ceux qui n'étaient pas au courant, en fait, une espèce de
mise à jour.
Mise à jour pour les retardataires. Voilà. Donc c'est vraiment la symbiose entre le titre, l'appli et le texte. Alors je rappelle moi quand même, pour que vous compreniez, La Note en fait qui avait été créée, c'est une appli, une espèce de super trip advisor universel, où tout le monde est noté et tout le monde peut noter tout le monde. Simplement en appuyant donc sur l'appli, quand vous passez près de quelqu'un, hop, ça s'affiche sur votre téléphone, un bouton rouge, un bouton vert, un bouton jaune, enfin orange, et puis selon que vous êtes content, pas content, vous mettez jaune, orange sur l'appli de notre smartphone, et évidemment... Ben, on a tous des smartphones. Enfin, du moins, ça se passe dans un futur un peu pas très lointain. Et vous verrez, c'est quasiment maintenant.
Et c'est glaçant.
Et tout, donc, va se passer à bord de l'Excelsior, un magnifique bateau de croisière ultra moderne qui va partir de Madère pour rejoindre, en 8 jours, théoriquement, Miami.
Ça sent le lieu clos.
Évidemment, d'abord, dans ce bateau, tout est ultra connecté. Carte à puce spéciale pour se déplacer, ouvrir les portes, accéder aux ascenseurs.
Ok Google.
Ouais, ok Google, exactement. La carte permet même de payer. Il n'y a pas d'argent à bord. La carte paye ses consommations et ses achats divers. Ça permet d'accéder à tous les endroits, évidemment, sécurisés. Et évidemment, dans ce bateau, tout le monde a son smartphone à portée de main. Je le disais... L'auteur situe son roman dans un futur proche. En fait, il donne pas de date, mais en fait, si on regarde, c'est quasiment maintenant. Évidemment, c'est un huis clos. Tout va très vite dégénérer. Les incidents vont se multiplier. Les portes vont rester bloquées. L'accès à certaines parties du navire vont être fermées. Et surtout, La Note, donc cette fameuse rouge-orange-jaune, de nombreux concurrents et de nombreuses personnes à bord du bateau va passer brutalement de vert à rouge. Et ça va devenir un véritable cauchemar.
voir l'enfer.
Voilà, et nos trois héros, donc, qui sont des super geeks, vont mener l'enquête dans le huis clos, un immense huis clos, mais ça n'empêche, un huis clos sur mer, donc qui est devenu ce bateau, l'Excelsior. Et pendant un peu plus de 200 pages, Julien Capron, l'auteur donc, va pousser le bouchon technologique jusqu'au bout pour nous faire regarder de près, de très très près, l'outrance de notre monde numérique. Enfin, l'outrance qui est devenu notre monde numérique. Notre téléphone est devenu quasiment une prothèse au bout de notre bras. Et cette fameuse note, qui bien sûr n'existe pas en l'état, mais nous l'utilisons déjà pour les hôtels, les restos, les B&B et bien d'autres choses. De là à noter son voisin, sa compagne, le chauffeur du bus ou la maîtresse d'école des gamins, il n'y a qu'un pas que Julien Capron, lui, franchit allègrement. Et c'est effrayant. Heureusement, le suspense est bien mené. Il nous entraîne à la fois dans les dédales des coursives et des ascenseurs du bateau, mais aussi dans les pièges et les arcanes des algorithmes qui commencent à décider pour nous ce qui est bien ou mal. Il utilise comme fil rouge le livre de Job. Donc, pour ceux qui ne se rappellent plus de leur catéchisme ou de leur école, le livre de Job, c'est un poème qui disait qu'est-ce qui était bien ou mal, en fait, en gros, pour faire simple. Ici, c'est la machine qui décide du bien et du mal. Et alors, où est Dieu dans tout ça, comme disait à l'époque, dans une certaine émission, à la télévision? Eh bien, Dieu, est-ce qu'il pourrait se cacher dans une suite de 0 et de 1? Ben, vous le saurez en lisant, donc, Feu de détresse de Julien Capron, qui est paru à la collection Cadre Noir du Seuil.
Voilà, on a juste une petite minute pour passer un tout petit morceau de musique. Donc, j'ai d'une minute, 30 secondes, 2 secondes.
Donc, Bob Dylan, le morceau s'appelle Don't Think Twice, It's Alright. Vous devez le connaître. C'est une chanson qui revient en leitmotiv dans le roman dont on va vous parler juste après Yann. La chanson date de 1963 et c'est justement l'époque où se situe l'intrigue du roman. Mais je vous en dis pas plus. Bob Dylan.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. Ain't it ain't no use in the turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay.
Et voilà, donc c'était Bob Dylan pour introduire le livre dont va nous parler Yann Lespoux. Ben je vous laisse donner le nom du livre et de l'auteur. Bonsoir.
Bonsoir d'abord Yann, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à tous les deux, merci. Alors je vais vous parler de November Road de Lou Bernet qui est paru chez HarperCollins. Il s'agit de l'histoire de trois personnages en fait, hein, plus ou moins, qu'on va suivre. Le premier s'appelle Frank Guidry. Il est, c'est une espèce de petite frappe, de petit mafieux de la Nouvelle-Orléans qui s'est vu confier une mission par Carlos Marcelo, le grand boss de la mafia locale. On l'a envoyé à Dallas déposer une voiture dans un parking. Et on est en novembre 1963. Et Guidry va donc s'apercevoir qu'il a servi à aller déposer la voiture qui a servi à la fuite du tueur de Kennedy.
Enfin, ah, le tueur caché.
Monde. Pardon ?
Le tueur caché.
Et oui, le fameux tueur caché. Et du coup, donc, Frank Guidry, quand on lui demande d'aller récupérer à nouveau cette voiture un peu plus tard pour la faire disparaître, se dit que peut-être on va vouloir le faire disparaître aussi au passage. Et donc, il décide de s'enfuir, il va prendre la route, et il va partir en direction de Las Vegas. Et au même moment, on suit un autre personnage qui s'appelle Charlotte, qui est une femme qui vit dans une petite ville de l'Oklahoma, qui a une vie de famille assez morne avec un mari alcoolique. elle a deux filles, puis une fois, un jour, elle en a assez. Après l'énième cuite de son mari, elle décide de prendre ses enfants, la voiture, et de partir pour la côte ouest, pour la Californie. Et bien sûr, nos deux personnages, Charlotte et Franck Guidry, vont se croiser à un moment. Franck va se dire qu'une femme avec deux enfants, ça fait une bonne couverture pour voyager, parce que bien sûr, derrière lui, il a un tueur qui s'appelle Barone, qui veut le tuer, qui est envoyé par Carlos Marcelo pour se débarrasser de lui. Et on va donc avoir comme ça une poursuite à travers les États-Unis en direction de Las Vegas et de la Californie.
On a l'impression que c'est presque une mise en abîme, un double road movie, quoi.
Exactement. Et alors on se dit comme ça, moi c'est ce que je me suis dit en tout cas quand j'ai lu le résumé du livre, la quatrième de couverture, je me suis dit, oh là là, tous ces clichés qui vont s'accumuler, la théorie du complot, la femme qui décide de s'émanciper toute seule et qui rencontre le beau truand au grand cœur, qu'est-ce que ça va être, gnangnan, guimauve.
Tout ça, et, tout ça sur une route qui va vers Las Vegas en plus.
Voilà, on a vraiment tous les clichés qui sont posés là par Lou Bernet. Et ce qui est vraiment très très fort, c'est qu'il les utilise à fond, mais avec toujours un petit pas de côté qui fait que finalement, il va nous amener un peu ailleurs de là où on l'attendait, tout en maintenant quand même tout le temps un suspense. On a toujours des chapitres qui s'achèvent sur un suspense assez intense. On se laisse vraiment embarquer et puis on s'aperçoit que effectivement tous les clichés qu'on attendait sont là, mais ils sont un peu dévoyés et on nous amène ailleurs que là où on pensait, et ça c'est très 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 bien fait.
En fait, c'est vrai qu'il part sur le truc classique du syndrome qu'a été pour les États-Unis l'assassinat de Kennedy, et en fait il détourne bien, certains personnages le racontent, mais il raconte bien cette Amérique de cette époque en 63. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi musique de Bob Dylan qui date de l'époque, quoi.
Oui, d'ailleurs, Charlotte écoute régulièrement Bob Dylan dans le livre. Et oui, il y a vraiment tout ça. Il y a cette Amérique qui est encore l'Amérique de la ségrégation aussi. On va voir tout un passage où Barone est accompagné par un jeune noir qui est vraiment très intéressant là-dessus. C'est l'époque où aussi une femme qui se promène toute seule, c'est pas très bien vu. C'est tout ça. Et voilà, tous les clichés du film de mafieux aussi, par ailleurs. Mais l'intelligence de Lou Bernet, c'est vraiment de faire de Charlotte une femme plus forte que ce qu'elle paraît, mais et aussi beaucoup plus déterminée que ce qu'on pourrait penser, de faire de Franck Guidry quelqu'un de finalement pas si aimable que ça, on s'aperçoit quand même très très vite dès le début que c'est une belle petite ordure, et de faire de Barone et le tueur un personnage qui n'est pas aussi monolithique que ce qu'on pourrait penser. Et tout ça, ça donne un livre dans lequel on se laisse vraiment très très bien embarquer.
Ouais, puis en plus, il réussit à conserver un très bon rythme avec le changement de personnages, enfin les trois personnages principaux qui arrivent tour à tour. Ça donne une vraie dimension au roman.
Oui, oui, c'est très dynamique. Il réussit vraiment à ce que tout se goupille très très bien. Il y a vraiment pas de fausses notes. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des fois des baisses de rythme pendant le livre. En fait, pas du tout. On est vraiment embarqué très très vite dedans. Et c'est vrai qu'on a vraiment du mal à le lâcher, jusqu'au bout.
Si je ne m'abuse, c'est un nouvel auteur, il me semble pas, ou je me trompe complètement?
Je pense que c'est un nouvel auteur en France.
Oui, voilà, c'est le premier roman traduit de cet auteur-là.
Ouais, je pense que c'est le premier qui soit traduit en France.
Oui, j'ai un peu regardé, il me semble pas avoir... mais bon...
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le personnage de Charlotte, par certains moments, il m'a fait penser à un personnage de Jack Hickson. Cette femme qui vit le trou du cul du monde des États-Unis, dans une belle famille très pesante, et puis qui à un moment pète les plombs et puis elle va jusqu'au bout.
Oui, exactement. Il y a de ça aussi. Hein. C'est des personnages de films noirs un peu, et qu'on retrouve là, et qui sont vraiment des personnages très très forts. Et là, en l'occurrence, il ne cède pas aux clichés qu'on a souvent dans la littérature noire avec les femmes qui sont d'éternelles victimes. Elle réussit à surmonter tout ça avec beaucoup de force.
Bon, et finalement, on sait qui c'est qui a tué Kennedy ou pas ?
On sait qui a commandité. C'est Carlo De Marcello. Alors ça, on le sait depuis le début. Hein. Donc, je vous dévoile rien.
Non, mais je croyais qu'il y avait un scoop, moi, là.
Non, en fait,
malheureusement pas.
C'est le prétexte, mais c'est pas le sujet du livre en fait.
J'avais compris. Est-ce que il me semble bien, mais peut-être me trompe, il me semble que vous n'avez pas cité le nom du traducteur ou de la traductrice d'ailleurs.
Tout à fait. Et je ne l'ai pas sous les yeux.
Ah.
Je crois que ouais.
Donc, c'est pas.
J'en suis vraiment navré.
C'est pas grave, on le rajoutera sur notre petit bandeau parce que on sait le travail fabuleux. Si vous avez apprécié ce roman, c'est entre autres grâce au travail du traducteur et ils font en ce moment du très très beau travail. Je pense qu'on reparlera bientôt du travail de Jacques Maillot chez Gallmeister et il y a vraiment des très très bons traducteurs, en particulier des romans américains.
Il y en a de plus en plus, et je pense que les éditeurs de plus en plus s'aperçoivent de l'importance de ce travail de traduction. Et c'est vrai que c'est un plaisir de lire des livres aussi bien traduits.
Ouais, il y a vraiment eu beaucoup d'améliorations de ce côté-là. Yann, on va vous remercier beaucoup, puis on essaye de se revoir un petit peu, de se réécouter un petit peu plus souvent, si vous avez un peu plus de temps de vie, bien sûr.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Yann et à bientôt. Donc on rappelle le livre dont vous nous avez parlé, November Road, pardon,
de Lou Barnet. Et November Road parce que ça se passe au mois de novembre, juste
oui,
après
novembre 63, voilà. L'assassinat de Kennedy, et c'est aux éditions Harper et Collins. Et puis on va écouter un petit peu de notre générique. À bientôt.